France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Les Utopias, le festival de science-fiction à Nantes, ouvre tout juste sa 26e édition. Comment les sciences sont-elles utilisées pour construire des univers fictifs cohérents ? En matière de science-fiction, comment fabriquer un monde fictionnel qui pourrait exister mais qui n'existe pas, tout en respectant les lois physiques connues ? La SF doit jongler entre un ancrage scientifique et une bonne histoire. Certains font même des sciences le pilier fondamental de leur univers fictif. Que se passerait-il si la Terre avait des anneaux ? Comment vivre dans un système planétaire à 6 soleils ? Et si nous avions appris la physique autrement, quelle serait notre conception du monde ? Ce sont ces territoires que la SF nous invite à explorer. Univers de fiction, bonjour tous les mondes. Et bonjour les Utopiales, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci mille fois, vous êtes très nombreux dans ce palais des congrès qui est très grand et très impressionnant. Et bonjour, nous sommes donc en direct depuis Nantes. Bonjour à nos invités, bonjour Floriane Soulas.
Bonjour.
Vous êtes autrice d'imaginaire et ingénieure en génie mécanique, membre du comité de programmation littéraire des Utopiales et l'autrice, entre autres, des Oubliés de Lama, paru en 2021 aux éditions Scrinéo, pardon, et prix Utopial 2022.
C'est ça.
Alain Riazuelo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, chercheur CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris et auteur de 10 scénarios pour la fin du monde, paru au printemps dernier aux éditions Tana. Et nous serons rejoints dans quelques instants par Roland Lehoucq, qui n'est pas dans un monde parallèle, mais dans une autre table ronde. Il arrive, Roland Lehoucq, qui est donc astrophysicien au CEA, enseignant à l'Université Paris-Cité à Sciences Po Rennes, président de la Société Astronomique de France et président de l'Association des Utopiales. En tout cas, merci à vous trois d'avoir rejoint ce plateau et d'être avec nous tout au long de cette heure. Vous qui nous écoutez en direct, vous pouvez aussi nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencecqfd. Alors, comment fabrique-t-on un univers de fiction fidèle à la science et à la physique ? Et comment transformer les contraintes scientifiques en un moteur narratif ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, en préambule, Floriane Soulas, comment, dans un scénario de SF, quelle est l'importance de la cohérence scientifique ? Surtout, comme dans votre cas, quand on fait du space opéra.
C'est une bonne question, parce que quand on fait du space opéra, plus particulièrement, je pense que le lecteur est déjà acquis à la cause du vaisseau spatial, par exemple, qui n'existera pas, a priori. Donc il y a déjà une suspension d'incrédulité qui est acquise. Pour l'auteur, le lecteur sait qu'il va trouver des choses qui n'existent pas.
Suspension d'incrédulité, ouais, c'est ce pacte entre le lecteur et l'auteur. Voilà. On laisse de côté son scepticisme au temps d'une lecture.
Je te dis que les vaisseaux spatiaux existent et tu me crois. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a un peu deux formes de science-fiction. Il y a la science-fiction qui vraiment va se baser sur des théories scientifiques ou des faits scientifiques. Et dans ce cas-là, effectivement, comme tu le disais, la suspension d'incrédulité, mais surtout la vraisemblance, doit être de mise. Et après, il y a aussi de la science-fiction qui n'a pas pour but d'explorer de la science et qui utilise juste des concepts sans les développer pour faire avancer son intrigue. Et dans ce cas-là, effectivement, on accepte que ce soit vrai et on peut vivre l'aventure de cette manière-là.
En tout cas, il y en a un qui vient de rejoindre l'aventure, c'est vous, Roland Lehoucq, merci.
Bonjour, excusez-moi, j'étais dans une table ronde juste avant. Malheureusement, la téléportation n'existe pas, mon grand dépit, et donc j'ai dû avancer vite dans la salle.
En attendant d'inventer la téléportation, selon vous, très, très rapidement, Roland Lehoucq, quelle est, justement de manière générale, sur ces relations entre science et science-fiction, comment le raisonnement scientifique devient-il, peut-il être, une fabrique de monde parallèle, de monde fictif ?
Eh bien, simplement en essayant d'inventer quelque chose qui est nouveau, mais qui respecte autant que faire se peut les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, enfin les lois du monde telles que nous les connaissons ici et maintenant. Donc on veut à la fois que ça soit exotique, que ça soit différent, que ça soit éventuellement merveilleux, mais en essayant de respecter au mieux les lois du monde telles que nous le connaissons, en faisant l'hypothèse que ces lois du monde, ce que fait l'astrophysique comme discipline, que ces lois du monde que nous connaissons ici et maintenant s'appliquent en tout point de l'univers, là-bas et demain, ou ailleurs et demain, pour reprendre plutôt le titre d'une célèbre célèbre collection de science-fiction. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser la science pour faire quelque chose de différent de notre monde, mais qui respecte les lois de notre monde.
Les lois de notre monde, c'est aussi quelque chose que vous cherchez à comprendre, Alain Riaziolo. Alors vous n'êtes pas un auteur de SF à proprement parler. En revanche, vous vous amusez, entre guillemets, à changer les règles du jeu, des lois de la physique. C'est ce qu'on pourrait appeler la fiction scientifique. C'est sur ce type de modèle que vous travaillez sur ça.
Oui, il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'on a découvert les lois de la physique, se sont dit « mais pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est comme ça et pas autrement ?» Et quand on s'amuse à envisager quels sont tous les mondes possibles, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mondes qui sont hostiles, où on ne peut pas vivre, et donc que finalement, l'univers ne peut pas forcément être régi par des lois très différentes. Et donc des gens essaient de répondre à la question « pourquoi c'est comme ça et pas autrement ?» parce qu'on ne serait pas là sinon. C'est une des réponses qu'on a à cette question-là. C'est peut-être pas la bonne réponse, mais en tout cas, c'est un élément de réponse.
Et on reviendra évidemment tout au long de cette heure un peu sur vos approches justement de ces différents univers parallèles. Mais sans plus tarder, on va embarquer immédiatement sur la planète Pandora, le monde décrit dans Avatar de James Cameron.
Pandora, a world of wonder and mystery.
Pandora, incredible danger, un monde merveilleux et mystérieux, incroyablement dangereux et d'une étrange beauté. Depuis l'hémisphère sud de la Terre, vous pouvez voir le système solaire où se trouve Pandora, Alpha Centauri, à une distance de 4,4 années-lumière de la Terre. Le système Alpha Centauri est notre plus proche voisin stellaire. La plus grande de ces deux étoiles semblable au Soleil, Alpha Centauri A, ou ACA pour les astronomes, est le Soleil de Pandora. Pandora est l'une des nombreuses lunes en orbite autour de la planète Polyphémus, une planète géante gazeuse de la taille de Saturne. L'atmosphère toxique de Pandora la rend inhabitable pour les humains. La forêt tropicale humide couvre une grande partie de chacun des continents. Ces forêts tropicales sont similaires à celles qui couvraient autrefois le bassin amazonien, mais à une échelle plusieurs fois supérieure à celle de la Terre. Une grande variété d'animaux peut être trouvée sur Pandora. Fascinant et dangereux. La plupart des animaux, y compris les créatures volantes, sont hexapodes et ont 6 membres, à l'exception des navis humanoïdes. Mesurant entre 2,7 et 3 mètres de haut, l'équidius est un mastodonte à 6 pattes, utilisé par les navis pour chasser. Ils utilisent également les banshees pour chasser dans les airs. Mais le chasseur peut devenir la proie en présence du grand Léonoptérix. Dans la canopée en dessous, d'autres prédateurs féroces errent en meute. Les titanosaures marteaux à carapace et le prédateur terrestre le plus redoutable, le Thanator.
Voilà la voix de Sigourney Weaver, traduit par Léa Vagreus, un bonus DVD du film Avatar. Roland Lehoucq, vous venez de publier tout juste Avatar, exploration scientifique et culturelle aux éditions Le Bélial. Finalement, quel savoir scientifique tiré de cette planète fictive ?
Alors on l'a vu dans le petit extrait que vous avez passé, il y a des informations exactes d'un monde qui existe vraiment, enfin d'un monde, d'un système binaire qui existe réellement, Alpha du Centaure, qui sont deux étoiles, le système binaire, donc deux étoiles, on pourrait dire qu'ils tournent l'une autour de l'autre, enfin qu'ils tournent l'une et l'autre autour de leur centre de gravité commun, et il se trouve que Pandora est une lune, donc n'est pas une planète, est un satellite d'une planète qui s'appelle Polyphémus, ils ont dit en français, mais Polyphème en français, et qui, elle, est une planète qui est en orbite autour de Alpha du Centaure B. Donc Alpha Centaure A et B existent vraiment. La distance qui est donnée, 4,4 années-lumière, est parfaite. Plein d'indications se retrouvent dans le monde réel. Et puis derrière, on ajoute juste Polyphème, qui est une géante gazeuse. Alors on sait ce que c'est, les géantes gazeuses. C'est Jupiter, Saturne, dans notre système solaire. C'est aussi les deux plus petites géantes que sont Uranus et Neptune. Mais aussi une géante gazeuse qui n'a pas d'anneau, mais qui a la taille de Saturne. Donc on mélange un peu déjà les choses. On commence à voir apparaître des petites distorsions. Quand on la voit dans le film, Polyphème, elle a un tourbillon géant qui ressemble étonnamment à la tache rouge de Jupiter. Pour moi, ils ont pris Jupiter, ils ont pris Photoshop, et ils l'ont peint en bleu. Voilà, je ne sais pas comment on fait, mais c'est ça qu'ils ont fait. Et puis, il y a Pandora, qui est une lune de ce monde. Alors, on sait qu'il existe des planètes autour de Proxima du Centaure, qui est en fait le troisième élément, troisième astre de Alpha Centaure, AB, et il y a Proxima, qui est le pour former un système à trois corps. Et tout de suite, ça pose des questions. Dans un système binaire, c'est quoi l'orbite d'une, quelle peut être l'orbite d'une planète? Est-ce qu'il y a des orbites stables? Pandora, elle est en orbite autour de Polyphème. Alors, c'est quoi le rayon de son orbite? Tel qu'on la voit dans le film, on voit Polyphème qui est énorme dans le ciel, ce qui paraît assez naturel. C'est une grosse planète. Si on avait à la place de la Lune, alors si on était, nous, plutôt, pas à la place de la Lune, il y avait Jupiter, mais si à la place d'une des lunes de Jupiter, il y avait la Terre, indépendamment des problèmes que ça poserait pour y survivre, comment on verrait Jupiter dans le ciel? Ou comment voit-on Jupiter depuis la Lune, une lune de Jupiter? Et donc avec plein d'éléments comme ça qui sont donnés dans le film, d'éléments réels et de raisonnements, on peut reconstruire assez précisément, c'est ce que fait notamment Frank Celsis et Sean Raymond, ce que font Frank Celsis et Sean Raymond dans le bouquin, reconstruire assez précisément le système tel qu'il est pensé par Cameron à partir d'un système réel, en ajoutant des éléments fictifs, mais en essayant de conserver la cohérence globale. Et donc c'est là où commence l'enquête. Ils m'ont dit, mais comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? On veut en savoir plus.
Là, le système réel de Pandora, on est quand même sur un calque proche de notre planète Terre.
Oui, alors quand on voit Pandora depuis l'espace, quand les humains arrivent et on voit Pandora depuis l'espace, c'est la Terre. Enfin, on voit des nuages blancs, on voit des zones bleues, on voit des zones vertes, on comprend des continents couverts de forêts, on comprend des océans, on comprend des nuages. Et puis elle est éclairée par le soleil autour duquel orbite Polyphème et Pandora, le système Polyphème-Pandora. Et donc, ça ressemble à la Terre, mais sauf que c'est une lune, donc elle est plus petite. D'ailleurs, le méchant du film, il le dit, là, il fait le gros bras, là, on se vend des haltères, et il dit, il fait des haltères, parce qu'il est méchant, il veut être fort, mais parce que le manque de gravité, ça affaiblit. C'est Quaritch, voilà, le colonel Quaritch, il dit ça. Et donc, on nous dit explicitement que la gravité est plus faible. Et puis, on nous dit, l'atmosphère, elle est toxique pour les humains, mais elle s'intoxique pourquoi? Parce que les navires, ils la respirent bien, donc qu'est-ce qui pourrait la rendre toxique? Et comment? Et les humains, en même temps, ils arrivent, ils mettent un masque, donc un truc assez simple. Ils n'ont pas besoin d'une combinaison, comme un scaphandre complet, juste un simple masque pour respirer un oxygène, enfin une atmosphère, un air qui leur convient. Et ça serait quoi le critère de c'est quoi ce truc toxique qui est dans l'atmosphère? On peut comme ça se poser plein de questions et essayer, même si l'élément n'est pas donné dans le film, de reconstruire une cohérence, parce qu'à l'évidence, il y a la volonté d'être cohérent dans la construction du monde qui nous est présenté.
Et de fait, Pandora est un monde cohérent?
Oui, enfin, moi, il y a pas mal de choses cohérentes. Alors après, là où ça devient aussi intéressant, c'est que c'est un monde cohérent. Et pour qu'il le soit encore plus, on est amené à faire des prédictions. Par exemple, à partir des éléments du premier film, on peut déduire l'orbite de Pandora autour de Polyphème, du moins le rayon de son orbite, constater qu'elle est assez proche de Polyphème, sans doute comme les grosses lunes de Jupiter autour de Jupiter, et que parce qu'elle est assez proche, les forces de marée de Jupiter vont obliger Pandora à tourner en autant de temps sur elle-même qu'elle met pour faire une révolution complète autour de Polyphème, et que ça doit imposer qu'elle montre toujours la même face à Polyphème, et que doit y avoir un volcanisme actif. Ça, c'est une prédiction qu'on peut faire dès le premier film, et on attend le troisième film, et je vous donne où ça va se passer, dans les volcans et dans les zones actives des volcans. Donc on peut...
Après l'eau,
on peut, le feu. Bon, après, il y a une certaine logique, l'air, l'eau, le feu, on le sentait venir. Voilà, il y a une sorte de logique, disons, méta autour de ça, mais on peut tirer des ficelles et donner des informations qui ne sont pas données dans l'œuvre pour vérifier si elles se produisent vraiment ensuite.
Floriane Soulas, ce qu'on comprend là, en parlant de Pandora, c'est que finalement, ces univers de fiction, vu comment ils sont pensés, construits, réfléchis, en fait, ce sont des personnages à part entière.
Oui, c'est vrai. Je trouve qu'en plus, quand on parle de planètes assez exceptionnelles comme Jupiter ou Pandora, qui ont une présence, qui ont des couleurs très vives et des volcanismes actifs ou des tempêtes, on a tendance à les voir presque comme des personnages vivants qu'il faut aller convaincre de nous laisser entrer et de nous donner l'accès à leurs ressources et à ce qui se passe. Et d'ailleurs, on le voit même dans Avatar, la planète se défend en fait d'une certaine manière quand tous les animaux attaquent. Ils disent c'est la planète qui dit non en fait. Donc oui.
Et d'ailleurs, pour tout comprendre et tout saisir du contenu scientifique de cet univers-là, je vous invite à podcaster notre épisode Avatar 2, Ouvrir la boîte de Pandora. Roland Lehoucq, plus généralement, quand on regarde dans la science-fiction, vous avez aussi publié Manuel pour construire un monde extraterrestre. Il y a aussi cette chose-là qui vous intéresse, c'est d'imaginer, de comprendre comment les personnages se représentent l'univers et les lois de la physique, mais selon leur contexte.
Oui, parce qu'en réalité, on constate que sur Terre, nous sommes arrivés sur Terre dans un monde singulier, d'une certaine façon. Le thème de l'année aux Utopiales, c'est singularité. La Terre est singulière. D'abord, elle a de la vie à sa surface. C'est le seul endroit dans l'univers où on est certain qu'il y ait de la vie. Est-ce que c'est de la vie intelligente ? C'est une autre question. Mais en tout cas, qu'il y ait de la vie, ça, c'est une certitude. Et on pourrait se demander, mais est-ce que le développement humain aurait été différent si nous n'avions pas eu de lune ? Ou si nous avions eu plusieurs lunes ? Ou si nous étions dans un système binaire ? Ou si la Terre et le système solaire, en gardant le même système solaire, mais en le déplaçant dans la galaxie, plus près du centre, plus loin, beaucoup plus loin du centre, avec imaginez un amas globulaire qui serait visible à l'œil nu et qui ferait 2 ou 3 degrés de taille apparente dans le ciel. Vous aurez l'œil de Cain au-dessus de vous, là, qui vous regarderait. Qu'est-ce que ça aurait comme influence, finalement? Et on parle de personnages. Florian parlait de personnages. En quoi la structure du monde dans lequel on est peut influencer le développement mental, technique, spirituel, social, politique des êtres hypothétiques, quand c'est un monde de fiction, qui vivent à la surface de ce monde. Et donc, cette chose-là est extrêmement intéressante parce qu'elle est au cœur, évidemment, des problématiques de science-fiction.
C'est d'ailleurs au cœur du film Premier Contact de Denis Villeneuve en 2016 et puis surtout de la nouvelle de Tel Chien, l'histoire de ta vie en 1998.
Oui, absolument, parce que dans le cas de cette nouvelle de Ted Chiang, l'histoire de ta vie, et d'autre part du film Premier Contact qui en est tiré, les heptapodes, ces extraterrestres qui arrivent sur Terre et qui ont une écriture extraordinairement incompréhensible au départ, bizarre, complexe et incompréhensible, en fait, on réalise, alors je ne vais pas vous raconter toute l'affaire, mais il faut lire l'œuvre de Ted Chiang, la nouvelle de Ted Chiang, qui est parue dans un recueil qui s'appelle La Tour de Babylone, Les Tours de Babylone. Eh bien, la nouvelle de Ted Chiang, on comprend pourquoi le personnage masculin est un physicien. C'est nécessaire que ce soit un physicien. Ça a besoin d'être un mâle, parce qu'après, il y a des questions mâles et femelles pour avoir des enfants, donc ça, c'est un point. Mais il a une capacité en physique à montrer aux heptapodes des éléments de physique qui déclenchent chez eux une réaction dont il porte témoignage à la linguiste, qui est l'héroïne. Là, pour le coup, c'est une héroïne très importante, linguistique mise en avant et une femme mise en avant. Donc, pour cette œuvre-là, au moins rien que pour ça, ça vaut déjà le coup. Et ensuite, elle comprend parce qu'il lui a dit ce truc comme ça. Ils ont fait ce truc bizarre quand je leur ai montré cette expérience de physique. Et elle en déduit la façon dont pensent les heptapodes et qui en sont arrivés par la physique d'une autre façon que nous par une version causale, il y a des causes et des effets qui s'enchaînent, et eux ils sont arrivés par une version qu'on appellerait principe variationnel, qui est au fond, au cœur même de la physique théorique moderne, mais nous on est arrivés d'une autre façon, ils sont arrivés par une autre voie que nous, aux mêmes lois du monde. Et ça a forgé leur langage, leur représentation du monde de façon différente. Il y a cette discussion-là entre représentation du monde et monde dans lequel vous êtes qui est très intéressant.
Alain Riazulo, comment vous regardez justement vous, ces bidouillages avec la physique pour construire des mondes de fiction ?
On met sa rigueur au vestiaire quand on lit la SF, sauf à être fan de hard SF, qui est le genre qui essaie d'être le plus rigoureux, mais qui donc est très contraint de ce fait. Dès qu'on abandonne ça, on accepte que les règles du jeu soient différentes et ce qu'on attend des auteurs, des autrices, c'est que ils nous proposent un monde et qui proposent des règles du jeu qui paraissent naturelles et qui sont agréables à découvrir en fait.
Bien, quelles sont vos règles du jeu, Florian Soulas? Quelles sont vos méthodes de fabrication d'un monde cohérent et comment se passe votre travail d'écriture pour construire justement ces univers? Restez à l'écoute, on y arrive.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture et de la 26e édition des Utopiales à Nantes, nous parlons d'univers fictif avec Florian Soulas, Alain Riazuelo et Roland Lehoucq. Florian Soulas, votre roman Les Oubliés de Lama, paru en 2021, est une sorte de space opéra à tendance hard SF. L'humanité a colonisé le système solaire, mais une planète reste inaccessible, Jupiter. Des vaisseaux échoués ont fini par créer un gigantesque nuage de débris sur lesquels s'est construit Lama. Ce sont de vieux vaisseaux soudés entre eux. Ça forme une sorte de bidonville en orbite autour de la planète. Pourquoi avoir choisi Jupiter et pas une planète extrasolaire? On parlait de Pandora. Pourquoi Jupiter?
Alors déjà, Roland, on a déjà eu cette discussion souvent, mais Jupiter est la plus belle des planètes. Fin de la discussion.
Il y a débat, visiblement.
Il y a débat entre nous depuis longtemps. Mais quand on fait de la... Alors moi, j'ai une très grande lectrice de hard SF depuis longtemps, parce que c'est ce que mon papa m'a fait lire quand j'étais jeune, en premier. Donc j'ai lu beaucoup d'Asimov, beaucoup de choses comme ça. Et en fait, je me suis dit que c'était très chouette de toujours imaginer que les humains à aller plus loin, parce que je pense que c'est quelque chose qui est inné, la découverte, l'envie de se dépasser et de toujours aller conquérir plus de choses, ou en tout cas de découvrir plus de choses et de comprendre plus de choses. Mais moi, j'ai l'impression, en ayant fait des sciences, qu'il y a déjà tellement de choses qu'on ne comprend pas dans notre monde à nous, dans notre univers à nous, et que, en fait, à force de voir tous les jours des choses incroyables, on oublie qu'elles sont incroyables. Et notamment dans le système solaire, alors on en parle encore moins, mais Uranus, Neptune sont des planètes incroyables, et Jupiter et Saturne aussi. Et je me suis dit, déjà arriver jusque là-bas relève de l'exploit scientifique majeur. Donc avant d'aller jusqu'à Proxima du Centaure, qu'est-ce que ça nous prendrait déjà d'aller jusqu'à Jupiter et de s'installer sur Jupiter et d'exploiter Jupiter, et qu'est-ce que ça voudrait dire pour les humains de franchir déjà ce pas qui paraît complètement en fait inconcevable scientifiquement parlant.
Mais d'ailleurs, pourquoi Jupiter et pas Uranus ou une autre planète du système solaire ?
Jupiter parce que c'est la, je trouve, la plus impressionnante. Déjà parce qu'en termes de masse, sans Jupiter, il reste que le Soleil quasiment. Et c'est hyper, enfin, je trouve vraiment c'est une planète impressionnante. Et moi, je n'ai pas vu Saturne en premier comme Roland quand j'étais petite. J'ai vu Jupiter et j'ai été fascinée par ces histoires de ces espèces. Ben, tu en as parlé de la tache rouge, de toutes ces tempêtes, un peu comme on disait, comme si Jupiter était une planète en colère et toujours active et très violente. Et en plus, c'est une planète qui a été observée dès l'Antiquité et où il y a eu un suivi en fait de la taille de cette tache rouge depuis l'Antiquité. On observe l'évolution. Donc, est-ce que la tache grossit ou se rétrécit ? Et effectivement, on constate qu'il y a un rétrécissement depuis des centaines d'années. Donc, peut-être qu'un jour, elle finira par disparaître. Alors, est-ce qu'on sera encore là pour le voir ? Mystère. Mais voilà, il se passe plein de choses. Et en tant que personnage d'une histoire, je trouvais que Jupiter était une planète vraiment passionnante à amener au cœur de la science.
Mais dans votre roman, on peut a priori pas aller sur Jupiter, c'est ça ?
Non, on ne peut pas. Notamment, effectivement, parce que. Alors moi, j'ai travaillé sur les foudroiements d'avions. Donc tout ce qui est magnétisme, électricité, ça me plaît beaucoup. Et donc forcément, Jupiter, avec ses tempêtes, était tout indiqué pour que je puisse faire de la hard science un petit peu, ou en tout cas de la vulgarisation autour de ces thématiques-là. Et effectivement, j'ai fait le choix de dire que les tempêtes qui entourent Jupiter étaient tellement violentes qu'aucun vaisseau n'arrive à passer ça pour aller voir ce qui se passe vraiment sous cette partie de son atmosphère. Et du coup, en résulte, plein de vaisseaux qui sont broyés et relâchés dans son son orbite. Et du coup, l'humanité décide que finalement, ça vaut pas le coup parce que c'est beaucoup trop de ressources à mettre en jeu pour essayer de conquérir quelque chose qui visiblement ne veut pas se laisser conquérir. Et du coup, décide de dire, bon, puisqu'il y a déjà une tonne de vaisseaux abandonnés là-bas, autant faire de l'orbite de Jupiter une décharge pour le monde entier. Et tout le monde va relâcher ses débris là-bas en se posant la question, peut-être dans 100 ans, mais que fait-on de tous ces débris une fois qu'ils reviendront vers nous ? Mais ça, c'est une autre question. On n'aime pas beaucoup se poser.
Une question, en effet, d'actualité, en effet, quand on voit l'état de l'orbite terrestre. Oui. Mais au moins, on arrive quand même dans votre intrigue à se poser sur Jupiter, cette géante gazeuse. Alors ça aussi, comment c'est possible ?
Oui, alors en fait, malgré tout, même si on ne peut pas y aller, on a envoyé quand même pas mal de sondes sur Jupiter et on a une idée quand même de la composition de son atmosphère et de ses différentes couches. Et en fait, mais pour différentes planètes, par exemple, sur Saturne, on sait qu'il serait théoriquement possible, à cause de sa composition, qui est très riche en carbone, et à cause de la pression qui existe sur Saturne, qu'il pourrait pleuvoir des diamants. À cause de la compression en fonction des couches. Et donc, du coup, dans le roman, notamment, Saturne est utilisé parce que des gens, c'est leur métier, vont pêcher des diamants dans Saturne. Jupiter, elle est très riche il y a une molécule qui est très utile, notamment pour tout ce qui est cryogénisation. Dans l'atmosphère de Jupiter, elle est très riche en cette molécule-là, donc j'ai oublié le nom, et c'est très dommage, parce qu'on est quand même à la science CQFD. Et en fait, on s'est dit que ce serait hyper intéressant pour pouvoir aller plus loin que le système solaire, de pouvoir capitaliser sur cette ressource-là, et du coup aller dans l'atmosphère de Jupiter, dans les couches où il y aurait cette molécule, pour aller la chercher. Mais en fait, on n'a jamais réussi. Mais on sait que, pareil, le gradient de pression de Jupiter est de plus en plus important au fur et à mesure qu'on va vers son noyau, et donc il serait possible, parce qu'il y a beaucoup de méthane dans Jupiter, qu'il y aurait une surface solide de méthane ou d'un autre gaz qui pourrait constituer une couche solide due à la pression. Mais du coup, ce serait une pression tellement énorme que théoriquement, si un vaisseau se posait là, il devrait être complètement écrabouillé. Moi, j'ai fait le choix de dire qu'ils ne sont pas écrabouillés. Mais voilà, il y a toute cette histoire de pression et de changement d'état qui ferait que théoriquement, il serait possible d'avoir une surface solide due à ces gradients de pression.
Roland Lehoucq, votre regard sur justement ce Jupiter-là et ses conditions d'atterrissage ?
Oui, alors, ce qu'on voit, alors plutôt qu'on en discute, parce qu'en fait on sait des choses sur Jupiter, bien entendu, parce qu'on l'a observé. On a la sonde Juno qui est en orbite autour de Jupiter et qui mesure tout un tas de choses extrêmement intéressantes sur Jupiter, avec une orbite très elliptique qui passe des fois très près de Jupiter et qui est plus lointaine, mais qui passe pas longtemps très près, précisément pour les raisons qu'évoquait Florian, c'est-à-dire de champ magnétique intense, de, comme on dit, ceinture de radiation, de particules de haute énergie piégées ou captées par le champ magnétique et qui font que c'est pas une ambiance très bonne pour le matériel électronique pour rester durablement dans ces régions-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est précisément dans tous les trous de la raquette. Parce que on sait plein de choses, donc c'est bien. Ça permet de poser un cadre qui a l'air plausible. On y croit. Il y a plein d'éléments, des détails qui titillent. Et en même temps, les trous dans la raquette sont extrêmement nombreux. Et donc, quand il y a des trous dans la raquette, et ben, autrice de science-fiction, on se précipite et on comble les trous habilement avec une intrigue soigneusement troussée.
Eh bien, on va s'approcher de cette atmosphère tempétueuse de Jupiter avec, je vous propose, cet extrait, une lecture de votre roman, Florian Soulas.
Kat sentit la montée d'adrénaline familière se déverser dans ses veines, resserrer un peu plus les nœuds de la peur autour de son estomac. Elle prit une grande inspiration d'air recyclé, âpre, et ouvrit les yeux pour observer la manœuvre. À sa gauche, l'espace infini, où le déchargeur neptunien achevait de se fondre dans les étoiles, ses réacteurs d'un bleu céruléen semblable à deux gemmes brillantes. À droite, envahissant tout son champ de vision, comme la bouche d'un ogre affamé, Jupiter. Sa surface striée de bandes, allant du sable au rouge cuivré, la fascinait autant qu'elle l'a terrifiée. Jupiter, la grande invaincue, qui continuait de repousser les hommes de sa fureur. Une géante qui aurait pu être une étoile et refusait de se soumettre. Les forces à l'œuvre, au cœur de ce mastodonte, dépassaient l'entendement. Il se trouvait en plein milieu de ses anneaux, à la limite de la couche atmosphérique supérieure de la planète. Kat pouvait voir les nuages d'orage crépiter furieusement. Cette vision fit de nouveau se tordre ses entrailles. Sans qu'elle s'en rende compte, elle commença à compter le temps qui espaçait les arcs lumineux. Les bourrasques magnétiques étaient faibles aujourd'hui, mais Kat savait que cela pouvait changer en une fraction de seconde, surtout avec Io, dont l'orbite se rapprochait. S'il existait un enfer dans l'univers, il se trouvait sur Jupiter.
Mais Florian Soulas, vous avez fait un calcul orbital précis pour savoir où se trouvait l'amas pour qu'il tienne comme ça autour de Jupiter?
Alors j'ai un peu extrapolé parce que j'ai pas fait d'astrophysique, mais contrairement à ce qu'on peut penser, Jupiter a des anneaux, elle aussi. On les voit pas, mais ils sont bien présents. Et il y a toute une série, en fait, Jupiter est la planète qui a le plus de lunes. Donc il y a toute une série de planètes en fait qui orbitent, enfin de lunes qui orbitent autour de la planète. Et je suis allée regarder les orbites de ces différentes planètes par rapport à Jupiter pour essayer de voir où je pouvais placer l'amas pour être sûr qu'il soit en fait bien coincé entre le champ d'attraction de la planète, le champ d'attraction de ces lunes qui passent autour et les vents solaires qui en fait viennent la repousser l'amas. Je me suis dit. Alors, j'avais fait des recherches à l'époque, mais vous me direz si c'est vrai, que probablement le passage d'une autre planète, du coup, avec son propre champ magnétique aussi, autour de Jupiter, devait entraîner en fait des changements dans l'équilibre des forces magnétiques quand l'amas qui est purement métallique passe à ce moment-là. Et je me suis dit du coup probablement que ça vient perturber le passage des vents solaires ou l'intensité du champ magnétique localement. Et c'est aussi un ressort que j'utilise dans une autre scène où il y a une course de vaisseaux dans les anneaux de Jupiter où j'utilise ça pour dire que en fait à certains moments plus il se rapproche de Io qui est aussi en train d'arriver à son apogée par rapport à Jupiter. Du coup, ben, plus en fait, y a de perturbations qui viennent perturber la course et rendre la course de vaisseau plus dangereuse et plus difficile.
Et Roland, le hook semble confirmé.
Je sais pas.
Il faudrait que j'analyse. C'est le trou dans la raquette.
Mais c'est le trou dans la raquette, voilà. Non, mais l'intérêt là est pas tant évidemment. On parlait de cohérence. Il faut que le monde soit cohérent. Il faut qu'on y croit. Et une fois qu'on y croit et qu'on lâche plus l'affaire, on peut aller jusqu'au bout éventuellement. Même si des bêtises entre guillemets, des fautes sont dites, ce n'est plus très grave. Il faut pas que ça rompe à ce point la narration. Les cohérences scientifiques initiales qu'on se dise, oh ben là, ça y est, c'est fini, Florian Soler raconte n'importe quoi. Après, on est embarqué, on suit l'affaire, et ça suffit bien. Et il faut qu'elle ait ensuite un certain nombre de buzzwords, comme on dit en anglais, des mots qui sont bzz, pour qu'on ait l'impression qu'elle, oui, elle nous pipote, mais c'est bien mené. Et si elle nous pipote, c'est bien mené, et si c'est juste, waouh, là, c'est vraiment
fort. J'aurais fait découvrir quelque chose, je ferai un papier. Après, je trouve que c'est intéressant parce qu'on parlait de vraisemblance scientifique, mais je pense aussi que, particulièrement en science-fiction, ce qui est aussi important, c'est la vraisemblance de la cohérence de l'univers. En fait, on disait qu'il fallait respecter les règles du réel, mais bon, quand on dépasse ces règles-là, parce qu'on entre dans le trou de la raquette, il faut que ce qu'on donne soit vraisemblable dans les règles de l'univers dans lequel qu'on a créé. Et là, ça me semblait OK de faire cette extrapolation-là, parce que ça ne contrevenait pas aux propres règles de mon univers que j'avais créé.
Mais d'ailleurs, vous nous embarquez dans un certain nombre de questions scientifiques pour rendre cet univers cohérent, puisque cet amas, cet agglomérat de vaisseaux, vous avez même réfléchi à comment recréer un cycle jour-nuit dans cet endroit-là, afin de penser au rythme circassien qui j'allais dire circadien, oui, merci. C'est pas du tout la même chose. Merci Roland Lehoucq. En tout cas, ce sont des questions, ces questions jour-nuit, c'est des questions assez peu abordées dans les space opéras.
Oui, c'est vrai que moi, une de mes œuvres de référence en space opéra, c'est Taux Zéro de Poul Anderson, que j'aime beaucoup, qui raconte un voyage spatial. Et c'est vrai que quand je l'ai relu récemment, je me dis, c'est marrant, on part du principe que dans un vaisseau donc, qui n'a pas de lumière naturelle, on va conserver un rythme de 24 heures comme sur Terre. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ferait ça d'ailleurs? Si on avait colonisé d'autres planètes, on n'aurait pas un système jour-nuit de 24 heures. Donc ça n'a pas de sens. Et sur l'AMA, on a encore moins ce problème-là, parce que comme tout est fermé et cloisonné, on n'a même pas accès au peu de lumière qui arriverait du Soleil. Donc, est-ce que ça a vraiment un intérêt pour les gens qui vivent là de se caler sur un système terrestre sur lequel ils ne vont pas, qu'ils ont probablement fui et qui, de toute façon, n'a rien à voir avec eux? Et donc, pour cela, j'ai décidé de recréer ce système et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait rythmer la vie de gens qui vivent enfermés dans un espèce de vaisseau géant? Et là, je me suis posé plein de questions aussi de comment on recycle l'eau, comment on recycle l'air, comment on s'assure que tous les systèmes sont intègres. Et j'ai créé ce qu'on appelle le recyclage. C'est un recyclage de l'air ambiant qui a lieu, en gros, tous les à peu près 3 jours terrestres, donc toutes les 72 heures. Mais pour eux, ça correspond à ce qu'ils appellent la période du recyclage. Et du coup, à chaque recyclage, tout le monde regagne sa cabine parce que les coursives principales sont évacuées. On enlève l'air, quoi, enfin, vraiment complètement. Et du coup, les gens ne parlent plus de... Ils ne se disent plus, on se dit à demain, on se dit avant le recyclage ou après le recyclage, et ça rythme la vie de cette manière-là.
Alors, à quoi ressemble la nuit dans un monde à 6 soleils? Que se passe-t-il lorsqu'on décide de changer les règles de la physique? Et si notre apprentissage de la physique avait emprunté d'autres chemins, quel en serait le résultat? Reste à l'écoute, on y arrive. Burman, science-fiction, en direct sur France Culture et en direct des Utopias, le festival de SF de Nantes. Nous sommes en compagnie de nos trois invités du jour. Floriane Soulas, autrice d'imaginaire et ingénieure en génie mécanique, membre du comité de programmation littéraire des Utopias. Alain Riazuelo, astrophysicien, chercheur CNRS à l'IAP de Paris. Roland Lehoucq,
astrophysicien OCEA, enseignant à Université Paris-Cité et à Sciences Po Rennes, et président de la SAF. On vient de voir de comment un jouer avec les règles de la physique pour justement créer des univers différents, étranges, mais qui restent, disons, dans le set des règles de la physique, telles qu'on les connaît. Maintenant, à présent, avec vous, Alain Riazuelo, vous avez publié donc au printemps dernier 10 scénarios avant la fin du monde. Là, à ce moment-là, dans cet ouvrage, vous jouez à décaler justement ces petites règles-là de la physique fondamentale.
Oui, on peut le faire de plein de façons. En fait, quand on change de monde, soit on change les conditions qui nous entourent, soit on change les lois physiques. Et dans un cas comme dans l'autre, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de changer grand-chose pour que les choses soient très différentes. Et voilà, on peut par exemple imaginer une étoile comme le Soleil a une espérance de vie de 12 milliards d'années. Donc dans 12 milliards d'années, on n'est plus là, c'est sûr. Mais il y a des étoiles comme Proxima du Centaure qui ont une espérance de vie qui se compte en milliers de milliards d'années. Et donc peut-être qu'il y a des planètes autour de ces étoiles. Et donc peut-être que dans quelques milliers de milliards d'années, avant que ces étoiles ne s'arrêtent de briller, il y aura encore de la vie. Mais de la vie qui vivra dans un univers beaucoup plus vieux. Et du simple fait que l'univers soit plus vieux, on change même pas les lois de la physique, en fait, notre compréhension du monde change. Parce que l'expansion de l'univers fait que le nombre de galaxies accessibles dans un volume donné, qui est celui que nos télescopes nous permettent de voir, ce nombre de galaxies diminue forcément au cours du temps. Et si vous attendez effectivement quelques centaines de milliards d'années, c'est-à-dire beaucoup moins que l'espérance de vie des étoiles de faible masse, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus une seule galaxie en dehors de la vôtre qui est accessible à vos télescopes.
Donc, si notre galaxie ne comprenait qu'une poignée d'étoiles, disons une centaine, notre conception, vous voulez dire, du monde, de comment le cosmos s'est construit, serait complètement différente.
Oui, alors ça, bon, première chose, au bout d'un certain temps, on ne voit pas d'autres galaxies, donc on ne sait pas que l'univers est en expansion, on ne sait pas qu'il a une histoire, on ne sait pas qu'il est issu du Big Bang. Et si on attend encore plus longtemps, alors on peut montrer que la formation stellaire est très lente, il se forme une étoile tous les 100 milliards d'années. Et ces étoiles qui se forment une fois tous les 100 milliards d'années sont des étoiles de très faible masse. Et donc finalement, vous n'avez dans une galaxie, donc des centaines de milliards d'objets, que 100 étoiles aussi peu brillantes que Proxima du Centaure qui brillent. Et Proxima du Centaure, elle est 100 fois moins brillante pour qu'on la voit alors qu'elle n'est qu'à 4 années-lumière. Donc les 100 étoiles qui seraient comme Proxima du Centaure, elles seraient toutes à des milliers d'années-lumière de nous. Donc le ciel serait littéralement complètement noir et les gens ne sauraient même pas qu'il y a d'autres étoiles.
Bah, c'est peut-être le cas des Vénusiens finalement, puisque rien ne traverse l'atmosphère de Vénus, donc on ne peut pas savoir qu'il y a d'autres étoiles et galaxies.
Oui, si, sans aller loin dans l'espace ou dans le temps, une planète comme Vénus, vous avez une couverture nuageuse complète, permanente, et donc vous ne savez pas ce qu'il y a au-dessus. Vous pouvez découvrir les lois de la physique, vous pouvez découvrir la mécanique quantique, la mécanique tout court, la propulsion spatiale, vous pourrez faire des avions, et puis un jour vous allez au-dessus de l'atmosphère, hein. C'est pas plus difficile d'échapper à l'atmosphère de Vénus qu'à celle de la Terre. Enfin, un peu plus difficile parce qu'il y a des frottements, mais voilà, on peut faire des ballons qui vous amènent au-dessus des nuages, ça c'est possible. Et donc un jour, des gens qui vivraient à la surface d'une telle planète s'élèveraient au-dessus des nuages et découvriraient qu'il y a des étoiles. Et donc ce qui est parfaitement évident pour nous, pourrait être une absolue surprise pour une civilisation qui atteint notre degré de développement et qui découvrirait littéralement un autre monde.
Roland Lehoucq.
Oui, alors, d'abord, sur Vénus, il fait chaud, hein, et il y a une grosse pression, donc les vivants qui seraient à la surface, il faut qu'ils soient déjà balèzes pour survivre aux conditions, mais l'idée qui prévaut derrière ça, c'est qu'effectivement, les conditions dans lesquelles nous sommes, et là, Alain donnait ça en termes d'âge de l'univers, nous sommes à un univers qui finalement a 13,8 milliards d'années, mais qui est finalement relativement jeune, comme disait Jack Vance, tu t'inquiètes de ta mort prochaine, mais pense au ta mort prochaine, donc du peu de vie qu'il te reste, mais pense aux milliards d'années de mort qui t'attendent, et bien effectivement des milliers de milliards d'années d'évolution peuvent transformer à ce point notre perception de l'univers, qu'on a une compréhension très différente, au point qu'on ne sait même pas voilà que des étoiles existent. Alors ça peut être très basiquement parce que c'est dans très longtemps, mais aussi parce qu'il y a cette couche atmosphérique ou autre chose qui a été proposée par Isaac Asimov. Alors ça pose d'autres problèmes que les conditions de surface élevées, de température élevée de Vénus, mais d'une planète, Lagrange, qui est dans un système à 6 soleils, et il y a toujours un soleil qui est visible dans le ciel, et donc il n'y a jamais de nuit. Alors ça pose la question de l'orbite, qu'elle soit stable, enfin il y a d'autres questions qui se posent, mais disons, l'idée c'est que je ne sais même pas ce qu'est la nuit, mais les habitants de Lagrange savent dans leur couche géologique que tous les 2500 ans environ, il y a des grands incendies, des catastrophes. Ils savent pas bien pourquoi, mais ça approche. Et donc c'est un peu inquiétant de savoir, il paraît qu'il y a un truc qui s'appelle la nuit qui va apparaître et il y a des grands massacres et c'est horrible la nuit, quand elle arrive c'est horrible. Donc voilà l'idée, c'est un monde différent, une planète différente, un contexte différent peut nous faire envisager ce monde, mais l'univers dans son ensemble de manière radicalement différente de ce que nous pensons nous et qui nous paraît évident, enfin évident maintenant, mais qui n'était pas le coup qu'il y ait d'autres galaxies en dehors de la nôtre, au 19e siècle, c'était tout sauf évident. Donc la découverte des galaxies et des structures d'étoiles qu'on appelle maintenant galaxies étaient avant des nébuleuses et sans trop qu'on sache en quoi elles étaient différentes d'autres nébuleuses.
Et comme vous dites d'ailleurs, Alain Riazuelo, dans votre ouvrage, on a une chance incroyable finalement d'habiter dans une période de l'univers qui nous permet d'accéder à notre passé, puisque ce ne serait peut-être pas le cas si ça avait été un autre moment dans l'histoire. Alors si on s'amuse comme ça à prendre d'autres marqueurs et réglages fins en physique, si par exemple, je sais pas, on imagine changer la vitesse de la lumière, c'est plus 30 000 km par seconde. Est-ce que c'est ça, c'est des rouages intéressants à modifier pour imaginer d'autres mondes?
Oui, mais... la notion de vitesse de la lumière, c'est un peu subtil parce que la vitesse de la lumière, elle se déduit des forces électriques et magnétiques. Donc, quand vous changez la vitesse de la lumière, qu'est-ce que vous changez en vrai? Il faut un peu plus préciser. Et en général, beaucoup de gens qui s'amusent à faire ça le font mal parce qu'ils comprennent pas les subtilités. Mais il y a des choses plus simples, enfin plus faciles à définir. Vous savez que la matière est composée d'atomes. Dans l'atome, il y a un noyau avec des protons et des électrons, des protons et des neutrons, et puis en périphérie, il y a des électrons. Et on constate que le proton est 1836 fois plus massif que l'électron. Ben, on ne sait pas pourquoi. Et qu'est-ce qui se passe quand on change ce chiffre 1836 un peu? Ben, si on change un peu, il se passe pas grand-chose. Mais dès qu'on change un peu plus, il se passe beaucoup de choses. Et souvent, les étoiles ne brillent pas du tout comme elles brillent comme ça. Elles ne permettent pas de fabriquer des atomes. Elles ne permettent donc pas de l'émergence de molécules après coup. Et donc, oui, on ne sait pas pourquoi le proton est 1836 fois plus massif que l'électron. Mais on sait que si c'était différent, on serait pas là pour en parler. Donc toutes ces idées ont un nom. Ça s'appelle le principe anthropique, donc de anthropos l'homme. C'est... L'univers est nécessairement régi par des lois physiques qui permettent l'existence d'êtres conscients que nous sommes. Alors, il n'y a pas de finalité là-dedans. On n'est pas en train de dire l'univers a été fabriqué pour qu'on soit là, mais ça veut dire il pourrait pas être trop différent, sinon on ne serait pas là pour en parler. Et donc, évidemment, la question à 1000 euros, même beaucoup plus, c'est est-ce qu'il y a plusieurs univers dont beaucoup sont inintéressants parce que ne permettant pas beaucoup de complexité d'émerger, ou est-ce qu'il n'y en a qu'un seul et qu'il y a un principe qui nous échappe qui fait que c'est nécessairement comme ça et qu'il est nécessaire qu'à la fin il y ait de la complexité. Et donc évidemment, si vous êtes religieux, vous allez penser à Dieu, mais c'est peut-être pas forcément la réponse, peut-être qu'il y a une nécessité mathématique à découvrir qui fait que c'est inévitable.
Si les êtres conscients que nous sommes étaient apparus sur Terre 2 milliards d'années plus tôt, ceci c'est une question intéressante pour projeter d'autres oui. mondes.
Alors c'est arrivé. Pendant longtemps, on pensait que la vie multicellulaire était apparue il y a seulement 700 ou 800 millions d'années, et puis des travaux de chercheurs français de l'université de Poitiers, je crois, ont trouvé des fossiles vieux de un peu plus de 2 milliards d'années. Pour les plus ronds, la taille d'un poing, donc plusieurs centimètres, et qui ressemble quand même furieusement, non pas à un amas de cellules, mais vraiment à un organisme multicellulaire. Et donc, la vie multicellulaire est apparue plus tôt. Mais il y a eu un premier essai infructueux, visiblement, puisque tout ça a disparu, et puis c'est reparti. Mais donc, imaginons que l'humanité soit apparue il y a 2 milliards d'années. Ben, il y a un truc qui aurait pu exister, qui existait à cette époque-là, c'était des réacteurs nucléaires naturels. Aujourd'hui, vous prenez un bloc d'uranium aussi gros que vous voulez, il y a très peu d'uranium-235, donc il n'y a pas de réaction en chaîne. Donc, ce truc-là n'est pas dangereux, il ne se passe rien, en fait. Mais si vous remontez 2 milliards d'années en arrière, l'abondance d'uranium-235 est plus élevée, et donc si vous avez 1 mètre cube d'uranium, de minerai d'uranium, ben c'est un réacteur nucléaire qui est chaud, qui vous permet de forger tout ce que vous voulez, qui est une source d'énergie virtuellement infinie. Et donc ça, nous ne l'avons pas expérimenté, parce que nous sommes apparus un peu trop tard dans l'histoire de la Terre, mais on pourrait tout à fait imaginer que la vie multicellulaire soit apparue beaucoup plus tôt, et donc que des êtres intelligents et utiliser ça comme instrument de pouvoir, etc. Et je crois qu'il y a une nouvelle de SF qui est basée sur cette idée. Je connais malheureusement pas son titre.
Bon, non, le hook. Il y a cette idée de réacteur nucléaire naturel. On la voit, elle est manifeste dans le réel, pour le coup. À Oklo, au KLO, au Gabon, on a trouvé un site qui était beaucoup plus pauvre en uranium 235 que les sites d'uranium habituels, beaucoup plus pauvres parce qu'il était consommé il y a environ 2 milliards d'années dans un réacteur nucléaire naturel qui a consommé le 235 et qui a pu fonctionner, modéré par de l'eau qui s'infiltrait dans les fissures avec une densité d'uranium suffisante pour faire un réacteur naturel qui a fonctionné pendant quelques, peut-être millions d'années et après, épuisant son combustible nucléaire, s'est arrêté. Donc il y a cette possibilité-là, elle peut être amusante à imaginer dans une œuvre de fiction, bien sûr.
On va quitter nos mines d'uranium pour imaginer un univers avec ses propres règles.
L'origine du titre provient du problème des trois corps en physique et en mathématiques. Je connaissais le problème des trois corps bien avant d'écrire le livre. Mais plus tard, j'ai vu un article expliquant le problème des trois corps qui m'a semblé très convaincant. Supposons que notre univers soit extrêmement simple, au point qu'il ne comporte que trois points de masse, et que ces points de masse se déplacent sous l'effet de la gravitation des autres. Nous ne pouvons même pas prédire le mouvement de trois points de masse sur la base de notre physique et de nos mathématiques actuelles. Le modèle très simple de l'univers est imprévisible pour nous à l'heure actuelle. Alors, comment pouvons-nous prédire la nature et l'univers très compliqués et diversifiés dans lequel nous vivons actuellement ? Cette idée est donc très forte pour moi.
Voilà, Liu Cixin dans une interview de 2013 sur The British Library, traduit par Bruno Sansini. Voilà, Roland Le Houx, c'est le fameux problème à trois corps.
Oui, alors, problème à trois corps qui est donc le titre du premier roman de cette trilogie de Liu Cixin, mais qui est aussi un authentique problème de physique, même de mécanique céleste, qui a agacé, pour dire le moins, les mathématiciens, les physiciens, des grands mathématiciens comme Poincaré, les physiciens, parce que muni des lois de Newton de la gravitation, et où on avait déjà résolu le problème dit à deux corps, c'est-à-dire un gros corps central comme le Soleil et puis un deuxième, et même en général, pas forcément un gros corps central et puis la Terre, mais deux corps quelconques, on peut parfaitement décrire par des équations, on peut calculer à la main, de façon analytique, comme on dit, tout le mouvement de ces deux corps. Dès qu'on en met un troisième, alors là, les choses deviennent un peu plus compliquées, au point qu'on ne peut pas écrire de solutions analytiques. Et pire, les solutions qui sont calculables par la machine, ces solutions-là sont très sensibles aux conditions initiales. On change un tout petit peu les conditions initiales, un peu la vitesse ou la position, mais un tout petit peu d'un des trois corps. Au bout de pas beaucoup de périodes, c'est carnaval, c'est autre chose qui apparaît et qui réduit à néant toute tentative de prévoir avec quelque pertinence l'évolution à long terme de ces trois orbites.
Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce problème-là, maintenant, il est utilisé dans la recherche d'exoplanètes. On découvre, ce qui est plus facile à découvrir, c'est des planètes proches de leur étoile. Donc, on a plusieurs planètes proches de leur étoile, elles interagissent beaucoup les unes avec les autres. Et donc, comme on a parfois des signaux qui sont très faibles, une des façons de vérifier qu'on a bien découvert une, deux, trois, quatre exoplanètes en plus, c'est de vérifier si cette configuration gravitationnelle très compacte est stable sur le long terme, c'est-à-dire sur une durée égale à l'âge estimé de l'étoile autour de laquelle on pense avoir trouvé plusieurs planètes. Et des fois, justement, on confirme les exoplanètes grâce à ça, le système est stable malgré sa compacité, et d'autres fois on infirme ceci en disant non, je suis désolé, au bout d'un milliard d'années, c'est pas possible d'avoir autant de planètes aussi près. Et donc finalement, ce que tous les gens connaissent par via des œuvres de fiction, c'est utilisé comme outil en science moderne.
Alain Riazolo, on peut aussi imaginer d'autres topologies, d'autres formes d'univers différents, notamment avec une hypothèse scientifique, l'univers en forme de donut.
Oui, c'est en fait les lois de la physique vous disent comment interagissent deux particules qui sont l'une à côté de l'autre ou deux planètes qui sont l'une à côté de l'autre, mais les lois de la physique ne vous disent rien sur la forme globale de l'espace. C'est une donnée arbitraire que vous devez rajouter à vos hypothèses. Et donc, passer les discussions des Grecs sur est-ce que le monde est fini ou pas, s'il est infini, c'est bizarre, mais s'il est fini, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive au bord ? C'est imposer l'idée d'un univers infini. Et il y a un petit peu plus d'un siècle, les gens ont commencé à se dire, oui, mais en fait, c'est pas la seule solution. Peut-être que l'univers pourrait être une sorte de cube, et quand vous arrivez à une extrémité du cube, vous réapparaissez de l'autre côté, comme dans votre jeu de Pac-Man, hein, sauf que c'est pas en deux dimensions, en trois dimensions, donc ça s'appelle un tore. Et vous pouvez représenter un tore à deux dimensions par un donut, c'est-à-dire quelque chose qui... où vous pouvez faire le tour dans une direction ou dans l'autre, d'où cet effet donut. Et ces choses-là ont un sens mathématique et sont éventuellement testables si la distance à laquelle vous pouvez regarder est plus grande que la taille de votre donut. Et donc avec Roland, on s'était intéressé à ça il y a une vingtaine d'années pour un résultat pour l'instant négatif. C'est-à-dire on n'a pas vu la périodicité dans cet univers, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas comme ça. Ça veut juste dire qu'il est probablement plus grand que ce qui est accessible à nos télescopes.
Bon, finalement, on se rend compte aussi que la physique est remplie d'hypothèses qui pourraient être des hypothèses de SF. On peut penser à la matière noire ou à l'énergie noire. On arrive vers la fin de cette discussion. Quelles sont vos recommandations en matière de hard SF ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture et en direct des Utopiales, nous parlons d'univers de fiction sous le prisme scientifique avec Floriane Soulas, Alain Riazuelo et Roland Lehoucq. Floriane Soulas, vous êtes ingénieure scientifique de formation, autrice, mais aussi une grande lectrice. Est-ce que vous avez des recommandations de romans que vous aimez, qui correspond à votre définition de la hard SF ?
Oui, alors un de mes romans préférés, j'ai déjà cité, c'est Taux Zéro. C'est un roman qui se base sur une équation scientifique où on a un vaisseau qui part essaimer dans la galaxie des nouveaux humains. Ils vont vers une nouvelle exoplanète et ils ont une avarie moteur. Et du coup, ils font le choix de continuer à avancer. Et du coup, dans l'équation de la vitesse, on a un 1 sur le temps. Le temps à l'intérieur du vaisseau se dilate par rapport au temps à l'extérieur. Et donc, en fait, le temps à l'intérieur se ralentit. Et plus ils vont vite, plus le temps à l'intérieur du vaisseau se ralentit. Et en fait, eux, pour le coup, ils vont assister à la fin de l'univers et à la recréation de l'univers en essayant de réparer leur vaisseau et de trouver une planète qui va les accueillir. Et c'est un espèce de huis clos basé sur de la science. Il y a même les équations qui sont écrites dans le roman et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et une autre recommandation que j'ai, c'est Retour sur Titan de Stephen Baxter qui rejoint ce que tu disais, Alain, sur le pas de côté, où en fait il imagine que sur Titan, les créatures ne sont pas faites à base de carbone, mais de silicium. Et du coup, il découvre une nouvelle forme de vie sur la planète, basée sur en fait une autre particule.
Et j'avais trouvé,
une autre chimie. Et j'avais trouvé que c'était hyper intéressant d'explorer cette voie-là. En science-fiction.
Floriane Soulas, vous nous évoquez aussi en coulisses le champ des glaces également. Le champ des glaces de Jean Krug.
Jean Krug qui est aux Utopiales cette année aussi, qui est glaciologue de formation et auteur de science-fiction et qui base aussi beaucoup de ses romans de science-fiction sur sa connaissance de la glace. Et notamment dans son premier roman, Le champ des glaces, il invente le Kriel, donc qui est, je pense, théoriquement, il faudra le confirmer avec lui, mais qui est théoriquement possible, c'est-à-dire en fait de la glace mise à très haute pression qui devient du coup extrêmement froide et énergétique et qui est utilisée après dans le roman pour créer de l'énergie. Et du coup, les gens vont sur d'autres planètes pour chercher du Kriel, pour nourrir des vaisseaux spatiaux et des choses comme ça. Et donc voilà, lui, il utilise sa formation de glaciologue pour écrire de la science-fiction. Et c'est vraiment très chouette. N'hésitez pas à aller lire ses romans et à venir l'écouter aux Utopiales parce que dimanche, il fait une grande conférence sur l'Antarctique, la science et la fiction.
Eh bien, merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure et de nous avoir embarqués dans tout un tas de mondes, d'options et de possibilités. Dans quelques instants, on va retrouver la chronique d'Alexandra Delbo. Mais avant, je rappelle quand même que vos ouvrages sont disponibles en librairie ou en médiathèque. Floriane Soulas, Les Oubliés de Lama, qui est paru aux éditions Scrinéo. Alain Riazuelo, 10 scénarios pour la fin du monde aux éditions Tana. En podcast aussi, vous pouvez écouter notre notre entretien au sujet de ce livre sur CQFD est Roland Lehoucq, Avatar, exploration scientifique et culturelle de Pandora aux éditions Le Bélial. Merci à vous trois, merci à vous. Tout de suite, on se catapulte dans l'univers des dinosaures. Et oui, c'est la chronique avec science.
Les dinosaures étaient-ils en déclin avant l'impact de la météorite ou se portaient-ils bien? C'est un vieux débat de paléontologie. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que cet énorme caillou qui a frappé la province du Yucatan au Mexique a précipité leur chute. La chronologie des événements n'est pas simple à retracer, mais elle fait appel à un volcanisme massif et des tonnes de poussière qui ont provoqué une occultation de la lumière. Près de 75% des espèces de la planète ont ainsi disparu, dont les dinosaures qu'on dit non-aviens. Cette extinction de masse, tant animale que végétale, marque donc la fin de l'ère géologique du Crétacé et le début de celle du Paléogène il y a 66 millions d'années. La découverte remonte aux années 80 et au même moment, des paléontologues américains pointent la possibilité d'un déclin plus précoce. Jean Leleuf est paléontologue, directeur du musée des dinosaures d'Esperanza dans l'Aude, qui est également un centre de recherche.
Les paléontologues américains qui se sont penchés sur la question sont allés voir en fait dans les plaines du Dakota, du Montana, là où il y a plein de squelettes de dinosaures qui datent de la fin du Crétacé, donc en gros entre 80 et 66 millions d'années. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces de dinosaures différentes dans les niveaux qui datent de l'étage campanien. Le campanien, c'est l'avant-dernier étage du Crétacé. Donc ça va de 80 à 72 millions d'années à peu près. Et il y a peut-être 50 ou 60 espèces différentes de dinosaures qu'on trouve dans cette petite région où affleurent de nombreuses roches de cet âge-là. Et par contre, quand on va voir les roches vraiment du dernier, de la moitié du dernier étage du Crétacé, le Maastrichtien et même le Maastrichtien supérieur, donc les roches qui ont entre 66 et 68 millions d'années, on observe qu'il y a une diversité bien moindre de dinosaures, toujours dans ces deux mêmes états, Montana, Dakota. Et du coup, conclusion, si on passe de 50 espèces à 10-15 espèces, c'est qu'il y a un déclin des dinosaures.
C'est le point de départ de ce débat qui a maintenant une quarantaine d'années. Le problème, c'est qu'il y a des limites méthodologiques inhérentes à la paléontologie. D'abord, le biais de fossilisation. On se base sur des fossiles en paléontologie, mais rien ne vous dit que la diversité que vous retrouvez correspond bien à ce qui existait, car une infime partie seulement des organismes se fossilise. Il y a donc un biais. Ensuite, il y a la datation des roches. Les fossiles sont retrouvés dans des sédiments qu'il faut pouvoir dater avec précision, d'autant que la période qui nous intéresse ici, juste avant l'extinction provoquée par la météorite, est très courte à l'échelle des temps géologiques. Troisième et dernière limite, ces premières observations, celles qui ont déclenché ce débat, ont pris place au nord de l'Ouest américain. Et le monde, eh bien évidemment, ce n'est pas uniquement le Dakota et le Montana. Cette nouvelle étude, parue dans Science, prend encore place dans les actuels États-Unis, mais plus au sud, 1500 km plus bas, dans un site déjà très bien connu, la formation Kirtland au Nouveau-Mexique. C'est une région très riche en dinosaures, avec beaucoup de diversité. Cité preuve que tout allait très bien pour eux. Et ce qu'ont fait les auteurs et autrices de cette étude, ce n'est pas de nouvelles découvertes de dinosaures, mais une réanalyse des datations. Et résultat, cette couche très riche en fossiles est en réalité un petit peu plus récente que ce qu'on pensait. Elle date de tout juste 500 000 ans avant l'impact de la météorite.
En redatant une couche géologique qui est également riche en dinosaures, dont l'âge était plutôt estimé vers 70 millions d'années, vers le début du Maastrichtien, jusqu'ici, ils ont montré que c'était plus probablement autour de 66 millions d'années, 67 millions d'années, que donc ces dinosaures faisaient partie des tout derniers, comme ceux du Montana. C'est une démonstration intéressante et ça montre surtout que le déclin envisagé quand on regarde seulement le Montana est certainement à remettre en question si on prend une vision plus large géographiquement. Mais c'est notamment tout ce qu'on appelle la faune Alamosaurus. Et Alamosaurus, c'est le dernier dinosaure sauropode. Les sauropodes, c'est les herbivores avec un long cou et une longue queue. Le dernier sauropode qu'on trouve en Amérique du Nord. Il prospérait dans cette région, mais on peut même aller au-delà de ça, parce qu'on sait maintenant pertinemment qu'il prospérait dans d'autres régions du monde, notamment en Europe, en Amérique du Sud. Pour le reste, c'est encore le point d'interrogation. Tout l'a supposé qui prospérait partout dans le monde. Le tout est de trouver des fossiles.
Et oui, les fossiles, c'est toujours ce qui nous manque. Ce que montre l'étude finalement, c'est que les dinosaures prospéraient au sud de l'Amérique du Nord. Cela rejoint d'autres observations, notamment en Europe. Ce n'est donc pas une exception. L'autre point central de l'étude, c'est que l'on retrouve des gros dinosaures, les Alamosaurus, juste avant l'impact de la météorite. Et c'est très intéressant parce qu'on sait que les gros animaux sont plus sensibles que les petits aux extinctions. Trouver de gros dinos partout serait donc une manière de mettre au jour une prospérité plus globale. L'enjeu est donc de continuer à multiplier les fouilles proches de cette fin du Crétacé. Plusieurs sites à travers le monde semblent prometteurs, au Brésil, en Roumanie, au Maroc et dans les Pyrénées espagnoles et françaises. Autant de lieux qui pourraient révéler les tout derniers pas des dinosaures avant leur chute.
Merci Alexandra Delbeau pour votre chronique et merci les Utopiales. Et un grand, grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique Virginie Lorda, Thomas Robin et Julien Calvas. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.